Faire du ménage dans nos croyances est un travail essentiel en spiritualité et en développement personnel. Les croyances sur l'argent et la richesse sont possiblement les plus associées à ce qu'on pourrait dire être le contraire de ce qu'est être pieux et spirituel. À cause de certains écrits de la Bible ou les enseignements du christianisme en général. Mais ces versets ont-ils vraiment bien été compris? Est-il possible que le problème ne soit pas d'être riche ou de désirer faire de l'argent, mais plutôt d'y être attaché et d'y fonder sa sécurité? Et pourquoi pas les moyens qui sont plus ou moins honnêtes pour y arriver? Aujourd'hui, on en parle avec Cathy Tropiano, coach, auteur, conférencière et entrepreneur spirituel et prospère. Bienvenue dans Hypnoconscience. Je me pose des questions depuis un bon moment sur ma relation à l'argent, ce qui m'a conduit à lire le livre « Que Dieu vos business » de Cathy Tropiano. Je la reçois aujourd'hui, question d'approfondir le sujet. Bonjour Cathy, comment tu vas?
Très content d'être ici. Merci Pascal pour l'invitation.
Merci à toi, je suis vraiment content de te recevoir parce que pour moi, tu es quand même une certaine figure, une notoriété que je suis habitué de voir sur les réseaux sociaux. Tu es l'organisatrice du Salon de l'éveil auquel j'ai participé, donc ton visage, je l'ai vu beaucoup dernièrement. J'ai lu un de tes livres, mais tu es aussi coach en prise de parole. Comme j'ai dit dans mon introduction, coach de prise en parole en public. Donc, ce que ça veut dire pour les auditeurs, c'est les gens qui veulent, par exemple, donner des conférences ou qui aimeraient être efficaces dans leur podcast ou des choses comme ça. Bref, savoir comment on communique. J'imagine que ça touche autant la parole que le non-verbal, le côté plus émotionnel et tout ça.
Tout ça, ça fait partie de la prise de parole en public. Le langage non-verbal, comment on se tient, notre posture. Tu sais, les gens pensent que la prise de parole en public, c'est souvent que le contenu. Mais on peut avoir un sujet super intéressant puis être quand même plate à embourrer. Tu sais, on a tous eu un professeur qui avait une matière qu'on voulait apprendre, mais que le professeur était super plate. Puis le contraire est aussi arrivé qu'on avait un professeur avec un sujet qui nous intéressait zéro, mais parce que le professeur était tellement enjoué de nous l'enseigner que nous, on était fascinés par ce qu'il avait à nous partager. Fait que, tu sais, la prise de parole en public, c'est pas juste le contenu, c'est tout ce qu'il y a.
C'est le contenant.
Notre présence.
Le contenant aussi. Ah, t'es aussi auteur, entrepreneur. J'ai lu dans ton livre même que t'étais entrepreneur en immobilier. En tout cas, différentes choses comme ça. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé de te faire venir parce que mes auditeurs savent que moi, j'ai commencé un travail il y a quelques mois sur tout ce qui est transformation interne, des croyances, des perceptions, de l'énergie, de qu'est-ce qui attire le succès. Et moi, j'ai vu que j'avais énormément de croyances par rapport à la spiritualité, que quand t'es pieux, quand t'es spirituel, tu peux pas désirer de l'argent, tu peux pas vouloir être pas nécessairement riche, mais avoir du succès et tout ça. Puis, t'as écrit 3 livres, dont 2 qui touchent pas mal le même succès, qui est Freaking Freak Out, si je le dis bien, puis Que Dieu vous business. Ça, j'ai adoré cette tournure de phrase-là. Et j'ai...
Tu sais, on vient enseigner ce qu'on doit apprendre. Moi, je voulais parler de relation à l'argent. Et je pensais que j'avais tout dit dans mon premier livre, Freak In, Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Puis quand j'ai terminé puis je l'ai lancé, bien, il y a eu d'autres épisodes dans ma vie. Puis Que Dieu vous business, c'était la suite logique.
Puis je me suis reconnu beaucoup dans ça parce que tu racontes ton histoire, comment tu as fait des choses parce qu'il fallait que tu les fasses, mais finalement, tu n'étais pas heureuse au point d'en arriver à des idées noires et tout ça. J'ai passé par là aussi, puis il a fallu que je lâche tout puis je recommence à zéro parce que j'en suis venu à me dire si c'est ça la vie, ça vaut pas la peine. Et, tu sais...
Moi, je disais tout le temps, la vie, c'est juste ça. Mais tu sais, la vie, c'est juste ça. Ça a l'air d'une phrase banale, mais elle peut devenir tellement lourde.
Effectivement. Donc là, j'ai dit, écoute, je me reconnais là-dedans. Cathy a traversé ce que je suis en train là, de traverser, de vouloir faire, de dire non, là, ça suffit, là. La vie, elle est belle, elle a un grand potentiel. Je suis responsable de où je me trouve présentement. Fait que si t'es pas là où tu voudrais être, prends-toi en main puis fais ce qu'il faut pour être où tu voudrais être. T'as Urgence de vivre aussi, ce livre-là, qui est, oui. Je pense, doit parler encore plus de cette situation-là où, écoute, tu filais pas, tu t'es dit, écoute, là, si la vie, c'est juste ça, mais comme tu dis, c'est lourd de sens, puis t'en viens à te dire, écoute, si c'est juste ça, ça vaut plus la peine de la vivre, en fait.
C'est ça. Le premier livre, ça a été vraiment plus raconter l'histoire de qui est Cathy Tropiano, pourquoi on lance le Salon de l'éveil, et le premier 25 000 mots, je l'ai écrit à la vitesse de la lumière parce que j'étais prête, parce que dans ma tête, ça faisait longtemps que ce livre-là était écrit. Mais après, tu sais, il faut l'arriver à 44 000 mots pour ma maison d'édition. Fait que là, j'ai embarqué en mode plus coaching, comment je peux redonner, comment je peux partager. Fait que le premier livre, c'est vraiment plus histoire de vie et coaching. Mais les deux autres livres, je me suis donné à cœur joie avec la relation à l'argent et la spiritualité. C'est vraiment les deux thèmes que j'aime mixer. Là.
Puis moi, je l'ai lu en me disant, écoute, j'en ai déjà lu plusieurs, comme là, j'en ai un ici à côté de moi, Le secret d'un esprit millionnaire de Harv Eker. J'avais vu le pouvoir du moment présent, pas le pouvoir du moment présent, mais le pouvoir de l'intention, le secret, etc. J'ai dit, tu sais, qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Il me semble que j'ai déjà tout entendu. Et là, finalement, j'ai pris des notes, puis tu sais, j'ai genre une page et demie de notes de choses que j'avais jamais entendu ça. Et pourtant, je réalisais, l'impact est intense de ça, tu sais. Puis si je commence, bien sûr, tu parles des...
C'est très touchant ce que tu es en train de me partager, tu sais, c'est très émouvant, merci.
Parce que j'ai pris une note de page 58, mais là, ça ne dira rien, mais pensée et croyance, OK. Mais qu'est-ce que tu veux dire par action, plan, personne ou environnement? Puis moi, j'ai stické sur personne. Puis là, j'ai réalisé, est-ce qu'en ayant des personnes dans ma vie, ça peut faire que j'ai pas de succès, j'ai pas de réussite, j'ai pas d'argent? Puis là, je me disais, voyons, c'est la première fois que j'entends ça, à part le fait de dire, ben si t'es pas marié à la bonne personne puis que t'as marié une femme qui est dépensière, OK, t'auras pas d'argent. Mais j'ai dit, en quoi? Fait que là, j'ai dit, je vais en profiter quand je vais l'avoir en entrevue pour dire, qu'est-ce que tu veux dire par les personnes dans notre vie peuvent empêcher, si on veut, nos intentions, notre succès, notre réussite?
Mais tu sais, les personnes qui nous entourent les plus près, c'est des personnes qui nous veulent notre bien. Fait que la première réaction qu'ils ont ou le premier réflexe qu'ils ont, c'est de vouloir nous protéger, de pas nous voir tomber, de pas nous voir se faire mal. Sauf que quand nous, on a un désir profond de réaliser quelque chose, on a beau essayer de l'expliquer avec les mots, aux personnes qui nous sont le plus près, c'est difficile pour eux de comprendre. Pour eux, ça fait pas de sens. Ils ont pas l'appel que nous, on a l'appel, tu sais, que nous, on a à réaliser. Et donc, s'entourer des bonnes personnes, moi, je dis tout le temps, les personnes qui nous aiment, soit qu'ils vont nous dire t'es super bonne, tu vas réussir, vas-y, je crois en toi. Puis on en a besoin de ces personnes-là. Mais en même temps, leur commentaire est biaisé parce que c'est par amour qu'ils nous disent des choses comme ça. Ou t'as des personnes qui, justement, ils veulent pas nous voir tomber. Fait qu'ils nous disent, ne va pas là, tu vas te faire mal, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Fait que toutes ces personnes-là sont super bien intentionnées, mais personne a l'appel que nous, on a. Moi, je me rappelle que c'était vraiment difficile, que c'était vraiment challengeant d'essayer d'expliquer comment ça se fait que la fille qui travaille dans un bureau en comptabilité a vu lancer un salon sur la santé, mieux-être, développement personnel, quand dans son entourage, elle connaît personne qui est dans ces domaines-là. Fait qu'essaie d'expliquer ça à quelqu'un de ton entourage, c'est soit les personnes te disent « Go, je crois en toi, ça va fonctionner », ou soit les personnes te disent « Mais de quoi tu parles? » Moi, je me suis même fait dire « Tu fais-tu une crise de la quarantaine? » Tu sais, je me suis vraiment fait faire des associations qui n'avaient aucun rapport. Fait que des gens qui croient en nous, des gens qui nous aiment, toujours avec en tête la bienveillance, ben ces gens-là nous
donc, ralentissent. Faut se protéger, pas nécessairement en les kicking out de notre vie, mais en étant conscient du gain, ou si on veut, de la bienveillance qu'il y a derrière, mais de pas écouter le message.
C'est ça, d'écouter la petite voix à l'intérieur de nous. Tu sais, ces gens-là, je donne tout le temps l'image d'une montgolfière. Tu sais, si nous, on est une montgolfière, puis on a des poches de sable qui nous retiennent au sol, il faut lancer les poches de sable par-dessus bord. Ça veut pas dire que on n'envoie pas d'amour puis qu'on n'écoute pas ces personnes-là. C'est juste que nous, notre rôle, c'est de s'élever. Nous, notre rôle, c'est de monter. Puis encore là, on le fait pas égoïstement. Quand on a cet appel-là, c'est souvent pour servir. C'est souvent pour les autres. Moi, c'était ça mon intention, c'était servir. Fait que si je reste au sol, qui je sers? Si j'arrive à élever, qui je sers?
Ouais, effectivement. Comme je dis souvent aux gens, qui se sentent coupables et qui veulent pas penser à eux autres, pas prendre de place, je sais, quand tu es une petite bougie, tu éclaires. Mais si tu es un flambeau, tu éclaires pas mal plus fort. Puis tu pourras pas devenir un flambeau si tu penses pas à toi, si tu laisses pas tomber ta culpabilité pour dire non, non, je me choisis, j'enlève rien à personne en faisant ça, puis passer aller de l'avant. Puis j'ai une autre question par rapport à ça, parce que là, je suis dans l'observation beaucoup, tu sais, qu'en PNL, souvent, on modélise, donc on cherche, mais qu'est-ce qu'ont en commun les gens qui réussissent? Et à un moment donné, je me suis mis à observer de quoi, puis j'ai dit, toutes les gens que j'admire et qui réussissent sont en couple et semblent avoir un couple, on va dire, solide ou tout ça, mais ça reste une impression, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe à la maison. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que les gens en couple réussissent plus que les gens célibataires? Est-ce que le fait d'être entouré d'une personne, on crée plus? Ou as-tu remarqué ça?
Hey, c'est une excellente question. T'sais, je ne peux pas parler des autres couples. Je n'avais même pas fait la liaison de les gens qui réussissent sont en couple solide. Je vais te parler de mon couple à moi. Cathy, elle a beaucoup changé. Je suis avec mon conjoint qui était mon copain à partir de l'âge de 18 ans. Puis je peux te dire que Cathy a 18 ans, Cathy a 25 ans, Cathy a 30 ans, puis Cathy a 50 ans, c'est zéro la même femme, tu sais. Et c'est lui qui a vraiment su être le pilier de la personne que je suis devenue. Tu sais, je pense que parce que lui a été solide, moi, j'ai pu aller de l'avant. Je pense que, tu sais, je peux pas parler pour les autres couples, mais je pense que nous, on a été solides ensemble parce qu'on a évolué ensemble, parce qu'on a grandi ensemble. Mais tu sais, moi, je suis une personne très, très cartésienne, mais aussi une personne très, très spirituelle. Puis lui, c'est une personne qui est très terre à terre, mais qui a une ouverture vers ça. Fait que tu comprends, c'était... Des fois, c'était difficile de moi arriver avec ma spiritualité puis mes idées de... Il existe plus grand que soi qui opère en arrière-plan. Mais tu sais, en même temps, je peux pas dire qu'il croit pas parce que sinon, il serait pas avec moi. Tu comprends? Il sait que ça existe. Il sait que c'est puissant. Il sait aussi qu'on a eu des manifestations à plusieurs reprises au courant de notre vie, que c'est indéniable. Donc, pour revenir à ta question, pourquoi les gens en couple réussissent mieux, je pense qu'il y a une stabilité. Tu sais, il y a une stabilité qui se crée, que si je tombe, ben j'ai quand même un pilier, j'ai quand même quelqu'un à côté de moi, qui croit en ce que je fais.
Oui, c'est possiblement ça. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, mettons, je prends Martin Latulippe, François Lemay, Robert Savoie, Charles Côté, tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Parce qu'ils n'ont pas du tout le même modèle de business, ils n'ont pas du tout la même attitude, la même personnalité. Puis ce qui m'a sauté, c'est ils ont une femme qui est là, ils la mettent même des fois un peu de l'avant, ça semble solide. Genre, tiens, c'est spécial ça. Ils ont ça en commun, ils ont probablement un paquet d'autres choses, puis là, il faudrait rentrer dans un métaprogramme et tout ça, mais de première vue, je voyais ça.
Mais t'as un bon sens de l'observation, parce que même moi, j'avais pas remarqué, tu sais, même tu me dis ça, puis je pense à Karine Champagne aussi, son couple, tu sais, Fred qui est un peu mis de l'avant aussi dernièrement, donc tu sais, toutes des personnalités qui ont réussi.
C'est ça, puis tu sais, souvent, puis c'est drôle, puis j'ai fait le lien, à chaque fois que t'as un président des États-Unis, ils mettent toujours beaucoup leur femme de l'avant pour être élu. C'est spécial, comme si les gens aimaient voir ça. Et tu sais, puis que pour eux autres, c'était une valeur et que quand ces gens-là étaient là puis que ça semblait, ils semblaient s'aimer, tout ça, il y a une confiance qui s'installait en ces gens-là. Il y a peut-être une énergie qui se dégage, mais en tout cas, c'est une réflexion que je me suis faite par rapport à ça. Et je voulais te parler d'un autre, un autre truc qui est peut-être pour moi le plus difficile. OK? Et quand tu dis ne pas avoir d'attente, c'est-à-dire fais tout ce que tu as à faire, puis lâche prise sur le résultat. Mais c'est dur de lâcher prise sur le résultat quand tu as mis autant d'efforts pour réussir, puis que, mettons, tu dis, hey, mais ça marche pas, je convertis pas, j'ai pas de like, j'ai pas ci, j'ai pas ça. c'est dur de pas rentrer dans le stress puis de mettre de la pression sur le résultat et on va dire faire confiance à l'univers, faire comme si on l'avait déjà réussi, le fameux faire comme si que tout le monde nous parle. Je sais pas si t'as des trucs à donner pour juste comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise sur le résultat comme ça.
Mais tu sais, j'aimerais ça te dire que, tu sais, ça c'est une belle phrase qu'on écrit, puis j'aimerais ça te dire que j'ai passé par-dessus ça, puis que je suis au-dessus de ça. Tu sais, on est tous humains, puis quand on a des projets, c'est sûr qu'on veut qu'ils réussissent, t'sais. Et ça m'est arrivé dernièrement que j'avais investi beaucoup de temps, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, tu sais, que j'avais visualisé, que j'avais rêvé à un seul projet-là que j'avais en tête, que j'avais bâti, tu sais, avec mes petites mains, puis que je voyais ça grandir, tu sais. Et du jour au lendemain, j'apprends que ça adviendra pas. Et là, c'est ça que je te dis, là. Là, la belle phrase que moi, je dis que pour lâcher prise sur les résultats qu'on n'aura pas, c'est facile à dire, mais quand on le vit, c'est sûr que ça nous chamboule. Mais moi, je reviens à toujours comment l'univers nous répond. Puis c'est celle-là qui m'a sauvée, pour vrai. Et je dis tout le temps, l'univers, soit il répond par oui, soit il répond par pas maintenant, ou soit il répond par il y a mieux qui t'attend. Moi, c'est vraiment, sincèrement, ce qui me sort de mon minding, de mon thinking, de mon petit hamster, parce que je te dis, quand le projet arrive pas, t'as le goût de te mettre en petite boule, puis t'as le goût de pleurer, puis t'as le goût de dire, hey, c'est pas vrai, j'ai fait tous ces efforts-là, puis que je l'ai visualisé, puis pourquoi j'ai rêvé à ça si ça devait pas arriver. Mais dans ma vie, à chaque fois que j'ai regardé en arrière, puis que quelque chose n'est pas arrivé, c'est parce qu'il y avait vraiment mieux qui m'attendait. Tu comprends? À chaque fois que j'ai tourné la tête puis j'ai dit, hey, ça, c'est pas arrivé, mais check qu'est-ce qui est arrivé à cause que ça, c'est pas arrivé. Tu comprends? Fait que même quand mon projet à moi, ça a pas fonctionné, puis que je te dis que la belle phrase de lâcher prise et n'ayez pas d'attente, même moi, j'ai le goût de m'envoyer promener dans ma propre pensée. Tu comprends? Mais quand je reviens à ça, comment l'univers m'a servi tout le temps, c'était oui. Pas maintenant.
Mais c'est intéressant, ça. Ça veut dire que c'est une croyance à installer qui va stimuler la foi en l'univers de dire, j'ai la croyance que quand j'ai pas ce que je veux, ça veut pas dire non. Ça veut dire pas maintenant où il y a mieux qui t'attend. Mais ça, ça fait du bien. Ça, ça allège la pression qu'on met sur nos fameux projets, si on veut. Parce que comme je dis, c'est dur de lâcher prise là-dessus. C'est... Veux pas, on est dans le contexte.
Ah non, je me vois dans ma cuisine, en train de me promener, là, en train de vouloir pleurer, là, tu sais, en train de vouloir comme ça bouillait, là, parce que quand on l'apprend, c'est pas une bonne nouvelle, là. Fait que là, je me rappelle d'être dans ma cuisine, puis là, les seules choses que je me disais, c'était, il y a mieux qui t'attend, il y a mieux qui t'attend. Puis l'autre chose que je disais beaucoup, puis ça, c'est moi, là, c'est spirituel, là, c'est God's rejection is God's protection. Si Dieu t'a refusé, c'est parce qu'il t'a protégé. Si Dieu t'a refusé, c'est parce qu'il t'a protégé. Fait que, tu sais, ces phrases-là, ça agit comme un mantra, ça agit comme une méditation. Tu sais, peu importe qui vous croyez, là, que ce soit Dieu, Krishna, l'univers, peu importe. Moi, je me disais, j'ai été protégée, puis je ne le sais même pas.
Mais c'est puissant, les croyances. Puis ça, je le vois, particulièrement les croyances, on va dire, spirituelles, parce que j'ai beaucoup présentement dans ma clientèle des jeunes femmes qui font énormément d'anxiété. Et je me rends compte qu'à travers leur anxiété, ils n'ont pas de balise. Ils n'ont pas une foi en quelque chose. C'est, on a laissé tomber beaucoup la religion et tout ça, mais les gens se sont trouvés devant un vide. Puis je dis à ces gens-là, c'est pas pour rien que depuis le début de l'humanité, les gens ont des rituels, des croyances, ils vont répéter des prières, ils vont répéter des chansons.
Des mandalas.
C'est ça.
Des mantras.
Ils programment leur cerveau à aller à quelque part. J'ai dit, toi, tu programmes pas ton cerveau, tu le laisses programmer par Facebook, TikTok, et là, tu passes des heures là-dessus. Sauf que...
Mais j'aime que tu fais la différence entre la religion et la spiritualité. Oui. Moi, j'ai vraiment dissocié les deux. Oui,
définitivement. Définitivement, je pense que la spiritualité est beaucoup plus personnelle à chacun et moins limitante, alors que la religion, il y a beaucoup de croyances limitantes qui sont imposées et il y a un certain contrôle. Donc, non, effectivement, je ne les vois pas du tout comme la même chose. Mais je pense que de le développer, ça, ça met des balises, ça met des idées claires sur lesquelles se raccrocher. J'avais une jeune fille cette semaine qui avait peur de la mort. Mais je me dis, là, je me rendais compte à quel point, wow, mes croyances, mon contact spirituel, fait que je n'ai pas cette peur-là de la mort. Donc, tu sais, il y avait des choses intéressantes dans ça qu'on n'aurait pas dû jeter avec, comme on dit, jeter le bébé avec, Avec Claude Dubin.
Avec Claude Dubin.
Et il y a une autre phrase aussi super intéressante dans ton livre qui est un peu en lien avec ça, c'est « Vous ne serez jamais ce que vous souhaitez être. Vous êtes ce que vous sentez être. » Et là, sur le coup, j'ai arrêté, puis il a fallu que je m'en répète plusieurs fois pour vraiment la comprendre, dire « Ok, je comprends, parce que dans le fond, si je me trompe pas, ce que tu veux dire, c'est plus tu souhaites être quelque chose, plus ce que tu vibres, c'est « je le suis pas ». Est-ce que je me trompe?
Mais j'aime cette belle... Non, c'est... Non, tu te trompes pas. Mais tu sais, je dis tout le temps, c'est plus puissant qui on veut être que qu'est-ce qu'on souhaite. Tu comprends? Le souhait de devenir. Mais si on le sent pas qu'on est ça à l'intérieur de nous, on pourra jamais y arriver.
C'est ça. Donc, ça revient à fait... À être la fameuse phrase de Jésus, faites comme si vous l'aviez déjà reçue. Tu sais, ouais. Ça veut dire...
Ayez la gratitude comme si comme si c'était déjà obtenu.
Donc, je le ressens déjà, je suis déjà dedans. Ça aussi, c'est pas évident. C'est pas évident d'être dedans. C'est un travail régulier. De là, toutes les gratitudes, quand on dit « Ayez un livre de gratitude, ressentez déjà ce que vous avez visualisé comme si vous l'avez déjà. »
Moi, j'avais fait un exercice avec la gratitude, là. Puis c'était incroyablement puissant. J'avais dit aux gens « Écrivez ce pourquoi vous êtes en gratitude. » Là, j'ai dit « Vous avez 5 minutes pour faire ça. » Fait que là, les gens avaient listé... Mettons, ils avaient fait une liste de 10-12 choses de pourquoi ils étaient en gratitude. Puis là, j'avais dit la demande, imaginez que demain, l'univers vous redonne uniquement ce que vous avez écrit, que vous êtes en gratitude de. Fait que là, les gens trouvaient qu'il en manquait des affaires. Parce que là, tu sais, t'avais fait une liste de 10, 12, 15 choses. Puis là, je te disais, l'univers t'enlève tout. Mais l'univers va te laisser uniquement ce que tu as écrit sur ta feuille. Puis là, je te dis que la prochaine fois que tu fais ta liste, t'en rajoutes des choses.
Est-ce que tu avais écrit, toi, quand tu as créé le Salon de l'éveil, que ça allait devenir le plus gros salon de développement personnel en Amérique du Nord?
Je vais être super transparente avec toi. T'sais, moi, j'y ai pas cru. Moi, j'ai tout le temps dit, Cathy, elle a fait son travail avec ses petites mains, t'sais, son petit labeur. Mais il y a une force qui l'a pris puis qui l'a soulevé bien plus grand que moi. T'sais, le fait que le Salon de l'éveil est devenu le plus grand salon en Amérique du Nord puis qu'il a résonné jusqu'en Europe, ben tu sais, moi, là, la petite Cathy dans son bureau de comptabilité, là, si quelqu'un s'est venu me dire ça un jour, tu vas être avec Ginette Renault, Étienne Drapeau, Rick Hughes, c'est tous tes amis, puis tu vas avoir leur cellulaire dans ton cellulaire. Jamais j'aurais vu ça, ça faisait pas de sens. T'sais. Fait qu'en l'espace de 5 ans, tu sais, qu'est-ce que moi j'avais dans mon imaginaire que j'allais créer, ben je sais que ça a été soulevé par plus grand que moi. Tu sais, c'était la répercussion que cet événement-là allait avoir dans le monde. Puis je reste humble en disant ça. Là, c'est, tu sais, moi, Cathy, je pouvais pas faire ça.
Donc, fait que ça revient c'est à dire à ce que tu disais tantôt quand la vie dit, c'est pas non, c'est il y a plus peut-être.
Arrête. Moi, quand j'arrivais avec mon idée, là, puis que j'expliquais ça aux gens autour de moi, là, quand je te dis les personnes qui t'entourent ont un rôle puissant, là, je me suis vraiment fait dire comme, mais qu'est-ce que tu t'en vas faire? Tu vas te planter, là. Imagine, je travaillais même pas avec le public dans mon bureau de comptabilité, là. On était 3 personnes, puis les personnes que j'appelais au téléphone, c'était pour leur dire « Est-ce que tu as posté ton chèque? » Tu sais, j'avais pas de conversation avec des gens, tu sais, pendant 22 ans de ma vie, j'avais pas de conversation avec des gens, là, puis du jour au lendemain, c'est comme « Hey non, j'ai l'appel, je sais pas pourquoi je dois faire ça, mais je dois faire ça. » Puis je crée le salon, tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, tu sais, c'est aussi en lien avec l'événement qui a été marquant dans ma vie quand j'ai failli mourir, là, tu sais, c'est un événement où j'ai dit si je décide de revenir à la vie, ben, faut que je retrouve celle que j'ai toujours su être. Cette phrase-là, à ce moment-là, j'avais aucune idée comment j'allais y arriver, tu sais. Puis le salon, quand ça vient dans mon idée, c'est je crée l'endroit où moi, j'aurais voulu me promener, tu sais. Mais en même temps, je me rendais compte que il y a bien des gens qui souffrent, tu sais. On est beaucoup, beaucoup dans le paraître. On est tous dans le, je vais vous montrer que ça va bien, tu sais. Aujourd'hui, la dépendance ou la dépression, elle n'a jamais été plus présente que jamais, mais si tu ouvres les médias sociaux, tout le monde va bien. Tu comprends? Si les taux sont élevés de dépression et de dépendance, mais si tu ouvres les réseaux sociaux, tout le monde Personne n'a rien vécu, tu comprends? Fait que, attends, il y a une dissonance, puis elle est flagrante.
Ça, c'est important d'en parler. On va faire une parenthèse là-dessus parce que je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené à part cette envie de mort-là, mais qu'est-ce que tu as fait pour sortir de ça? Parce que moi, je l'ai vécu. Une époque où je suis allé voir un psychologue, j'ai dit, écoute, de l'extérieur, ma vie est parfaite. J'ai une femme, j'ai deux enfants en santé, j'ai une maison en campagne, j'ai une job stable avec fonds de pension et tout ça, j'ai même un chien. Et j'ai dit, j'ai envie de me pendre. Là, faut que tu m'aides, là, parce que je comprends pas. Et là, j'ai dit, cette vie-là, j'en veux même pas, je comprends pas. C'est pourquoi je suis si mal que ça. C'est que vu de l'extérieur, c'est comme si j'avais suivi les rêves de ce que on devait faire en tant qu'homme dans la société. Puis dans la réalité, j'étais pas bien. Mais le step pour devenir ce que je suis aujourd'hui, où là, je suis heureux parce que je me sens à ma place, il a fait mal. J'ai dû vraiment faire face à la peur et à l'insécurité. J'imagine que tu as vécu la même chose. Tu as dû laisser aller des choses où tu prenais des risques financiers, peut-être même des risques amoureux, tu sais, en chambranlant des choses.
Oui, même des risques dans mon environnement, tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait avec aisance et facilité. Tu sais, quand ça arrive, c'est moi aussi, mon histoire ressemble un peu à la tienne. Tu sais, j'avais tout ce que la société disait qu'il fallait avoir pour être heureux. Puis moi, je me disais, aïe, j'ai tout ça et je suis pas heureux. Je sentais un vide à l'intérieur de moi. Puis je me disais, en plus, j'avais la culpabilité. Tu sais, j'ai pas le droit de me plaindre. Mm-hmm. De quoi je me plains? À qui je vais aller me plaindre? Fait que ça fait comme c'est une douleur que l'on contient, mais qu'à un moment donné, elle fait juste grandir. Tu sais, moi, je disais, à chaque année, on ajoutait une chandelle sur mon gâteau d'anniversaire, mais on éteignait la lueur qui était derrière la prunelle de mes yeux. Tu sais, je voulais juste partir. Mm-hmm. Je voulais plus être ici. Tu sais, c'était inconcevable pour moi de rester ici. Puis, tu sais, à ma job, je payais des factures. Puis quand j'arrivais le soir, je payais des factures. Puis j'étais là, c'est pas vrai que ma vie, c'est payer des factures. Là. C'est pas vrai que je suis venue sur la terre payer des factures. Là. Tu sais, quand tu réduisais ça, là, j'étais là, c'est pas vrai que je suis venue sur terre payer des factures. Là. C'était, pour moi, je devais donner un sens. Puis ma vie allait prendre un sens quand j'allais pouvoir contribuer. Ouais. Parce que jusqu'à cette partie de ma vie où j'avais travaillé, où j'avais réussi, où j'avais tout ce que tout le monde pouvait désirer, j'avais pas compris encore, tu sais, qu'il fallait redonner, qu'il fallait contribuer, qu'il fallait... Puis tu sais, quand j'ai fait ce switch-là, puis tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, je sors de l'hôpital avec la réalisation que je veux rester en vie, mais si je reste en vie, il faut que je retrouve celle que je veux toujours être. Ça passe par quoi? Moi, ça l'a passé par des livres. Le premier, Wayne Dyer, tu sais, Change Your Thought, Change Your Life. Si vous changez la façon dont vous pensez, vous allez changer votre vie. Ça, c'est le premier livre que moi, en développement personnel, me fait faire un 360. Puis après, les vidéos de YouTube qui sont gratuites parce qu'au début, tu sais, on ne sait pas par où commencer, par où aller. Tu sais, Tony Robbins, Les Brown... La panoplie de personnalités aux États-Unis que j'ai commencé à écouter puis à me répéter puis vraiment juste changer la façon dont je pensais. Tu sais, ça a été un long cheminement. Mais aujourd'hui, je comprends que, tu sais, je devais passer par là parce que ça devait résonner fort. Tu sais, ça devait, tu sais, on a dû me taire pendant aussi nombreuses années pour que quand j'arrive à crier, la planète entière m'entende. Tu comprends? Ça,
mais c'est à partir de ce changement-là, ça a quand même, je trouve, été rapide pour toi, la progression. Est-ce que je me trompe?
Mais si c'était ça, l'urgence de vivre, c'est parce que moi, j'avais trouvé que j'avais perdu beaucoup de temps. Tu comprends? J'étais rendue à 40 ans, puis j'avais pas fait qu'est-ce que je devais faire. T'sais, j'avais réussi au sein de la société, mais j'avais pas fait qu'est-ce que je devais faire. Fait que, tu sais, mon urgence de vivre, puis mon ascension rapide, ça a été parce que j'ai plus de temps à perdre. Tu sais, puis les personnes qui me disent non, ben j'ai quelqu'un d'autre qui va me dire oui. Tu sais, à un moment donné, c'était aussi ça. Tu sais, je me rappelle de... Tu sais, j'aurais pu, à chaque fois que j'avais une embûche, juste virer de bord, revenir en arrière, revenir dans mon « qu'est-ce qui est confortable? » C'était confortable, là, qu'est-ce que je faisais. Tu comprends? C'était pas enrichissant, mais j'étais dans ma zone de confort. Mais dans la zone de confort, on n'avance pas, on stagne.
Effect.
Fait que moi, j'avais besoin que là, on change des choses, j'avais besoin que ça avance. Puis, tu sais, je me suis cognée, là, la tête, puis j'ai tombé, là, puis, tu sais, c'est ça que je dis, quand il n'y avait pas de porte, est-ce que je pouvais faire une fissure? Puis quand je réussissais à faire une fissure, ben est-ce que je pouvais m'acharner assez pour que ça craque puis que je puisse entrer? Puis c'est ça que j'ai fait, là, parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent, c'est voici le chemin pour t'y rendre. Tu vas passer par A puis tu vas te rendre au point B. Oui, je suis d'accord, c'est ça le chemin, mais moi, là, est-ce que je peux passer par C pour arriver à B? Puis je pense que je l'ai démontré à maintes reprises dans ma vie que quand ça faisait pas de sens, je suis quand même arrivé à faire en sorte que ça fasse du sens.
Là, tu viens de dire, il y a des gens qui vont me dire oui, il y a des gens qui vont me dire non, puis je continue. Mais ce mindset-là, tu l'as maintenant, mais dans le livre, tu expliques que tu l'as pas nécessairement toujours eu. Tu donnes l'exemple de Sandra, à qui tu voulais avoir donné du coaching, puis tu as baissé le prix, puis tout ça, puis finalement, elle t'a dit non. Puis là, au final, je sais pas comment de mois ou d'années après, elle est revenue, mais là, tu y as chargé le gros prix, puis elle a dit oui. Mais ça, il y a quelque chose là-dedans, il y a de plus profond. On n'achète pas quelque chose parce qu'elle coûte plus cher. Il y a quelque chose que tu vibrais. Et ça, c'est une autre chose qui m'a touché beaucoup. J'ai dit, Pascal, toi, tu vibres quoi? T'as-tu la certitude que le prix que tu donnes, tu vaux le prix? Il y a plein de gens qui me disent, Pascal, monte tes prix. Tu sais, je donne un atelier, deviens une femme souveraine, ou je donne une autre formation, ou je donne un coaching gratuit. Puis, je veux dire, l'atelier devient à un prix ridicule. Puis autour de moi, on me dit, Pascal, ça n'a pas de bon sens. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable de le monter. On dirait que je suis en train de me dire que, ouais, mais moi, je ne veux pas être le coach des gens riches, je veux être le coach de tout le monde. Puis ça, ça me fait dire, ouais, tu te racontes peut-être des histoires. Là.
Et... on est nos propres barrières. Tu sais, la personne qui n'assume pas les prix qu'elle est en train de facturer, même si elle a une belle page de vente, même si tout est parfait dans le papier, si la personne, ce qu'elle dégage, tu sais, c'est ça qu'on dit. Moi, je dis tout le temps, c'est ne sous-estimez pas l'intelligence de vos audiences. Les gens, si vous vibrez pas que vous valez votre prix, ils le captent. Fait que si toi, tu annonces ton prix à 199$ puis que dans ta tête, tu devrais même pas charger 47$, même si tu le dis avec les mots, même si tu le dis avec les gestes, ton audience, ça fait longtemps qu'elle a capté que toi, tu assumes pas ton prix à 199$. Fait que, tu sais, moi aussi, j'ai accompagné des femme entrepreneur spirituel et prospère, ça s'appelait spirituel et prospère parce que les entrepreneurs qui sont spirituels souvent sont dans le don, sont je vais te donner mon soin, je vais te donner mon accompagnement, je vais te donner. Mais tu sais, en donnant un soin énergétique gratuitement, puis que au bout du mois t'arrives pas à payer ton loyer, ton énergie à toi, elle est comment? Fait que ton énergie de ton soin énergétique que tu donnes gratuitement, elle est comment? Tandis que si t'arrives à te payer même des vacances, ton niveau d'énergie est à quel niveau? Et le soin que finalement tu peux peut-être donner gratuit parce que la personne en a acheté 3 au plein prix, puis que là tu lui en fais un à moitié prix, ben ton niveau d'énergie est beaucoup plus puissant, puis ton traitement est beaucoup plus puissant. La personne elle va se dire, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais après ce soin-là, je me sens encore mieux. Mais tu sais, toi, c'est toi qui as changé ta perception de toi.
Mais qu'est-ce qui a changé justement? Comment t'as réussi à changer la perception de toi entre la Cathy qui dit « ça me prend un client puis j'y offre un rabais » puis la Cathy qui dit « garde, c'est ça mon prix puis tu fais ce que tu veux. »
Mais c'est vraiment le travail que j'ai fait de changer ma croyance limitante de « je le vaux », tu comprends? C'est notre valeur, je l'ai souvent cherchée dans les yeux des autres. Mais quand tu la trouves à l'intérieur de toi, il n'y a personne qui peut la dénier. Il n'y a personne qui peut la dénigrer. Fait que pendant des années, moi, j'ai voulu être aimée des autres. Mais à vouloir faire ça, je me suis égarée. Je me suis perdue complètement. Je ne me reconnaissais même plus à la fin. Fait que arrêtons de chercher notre valeur dans le regard des autres, puis trouvons notre valeur à l'intérieur de nous. Puis ça, ça arrive à chaque fois qu'on fait des mini-victoires. Ça arrive pas du jour au lendemain, là. C'est à chaque fois qu'on a des petites réalisations. Tu sais, si tu as 47$ de facturation, puis là, tu vas arriver à 197, ça se peut que ton gap, il est trop loin. Tu comprends? Ça se peut que ton pas est trop géant pour l'instant. Mais est-ce que tu peux passer de 47 à 97, puis de 97 à 197? C'est des petites victoires qui vont faire en sorte que toi, tu vas reconnaître. Si les gens l'achètent à 97, c'est parce que ça le vaut. Si les gens l'achètent à 197, ça le vaut. Si les gens l'achètent à 2000, ça le vaut.
Parce que ça m'a amené à réfléchir.
Mais la première année, je veux faire des rabais, je veux faire des spéciales, je veux donner du gratuit. Je la raconte dans mon livre. On enseigne ce qu'on est venu apprendre. Fait que la relation à l'argent, là, j'ai eu à dealer avec ça.
Moi, l'accompagnement que je fais qui s'appelle « Deviens une femme souveraine », avec tout ce que je donne autour, même si je charge, mettons, 550, avec tout ce que je donne autour, il revient à peu près à 150. Puis ce que ça contient, j'observe autour. Moi, j'en paye des formations, là. Tu sais, présentement, je fais Précog qui m'a coûté 5 000. Et c'est sûr que c'est il y a plus de temps que ce que je donne, mais je fais des formations qui sont peut-être l'équivalent de ce que je donne, que je paye 1500, 1600. Fait que, tu sais, cette histoire-là encore m'a fait, ben voyons, là, j'ai mis ça sur pause, j'ai mis mon signet, j'ai dit, calique, là, fallait que j'arrête de lire le livre un peu puis que je réfléchisse à ça. Sérieux, il y a plusieurs points dans le livre qui m'ont amené vraiment à me remettre en question puis à réfléchir par rapport à ça. Puis une des choses qui a eu le plus d'impact, puis là, je le dis devant mes auditeurs qui vont dire, ah, il y a des clients là-dedans, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Mais c'est l'impact de ce que je pense des gens ou de mes clients potentiels ou de mes clients, les croyances. Et celle-là, non plus, je ne l'avais jamais lue nulle part. Puis là, j'ai dit, hey, mais qu'est-ce que je pense de mes clients? Puis là, j'ai fait, oh, tabarouette, OK, pourtant, je le sais, ce qu'on attire, c'est ce qu'on croit. Mais mon expérience m'a montré que j'ai tel pourcent de mes clients qui sont comme moi. Ils travaillent fort, puis ils sont acharnés, puis ils n'ont pas peur de rentrer dans les douleurs, puis j'ai un pourcentage de gens qui abandonnent, puis j'ai un pourcentage de gens qui travaillent moins fort. Et là, je m'étais mis comme à juger ça. Et là, je me suis dit, attention, Pascal, là, tu es en train de te dire que ce que tu as vécu, c'est la représentation de la société, mais tu n'en as aucune idée, il n'y a rien de il n'y a rien de scientifique là-dedans. Puis si toi, tu travailles, il y a plein de monde qui sont prêts à travailler. Et là, j'ai écrit, je pense que ça m'a pris 5 minutes, je me suis mis en méditation, j'ai écrit 10 croyances limitantes sur ma clientèle.
En lien avec tes
clients. Là, j'ai fait, ah oh, mon Dieu, wow. C'est épouvantable, OK, là. Puis là, je me sens quasiment mal de le dire devant mes auditeurs, mais c'est de la vulnérabilité, là.
Non, moi, je pense que le fait que tu le partages puis le fait que tu te montres en vulnérabilité puis avec autant d'authenticité, je pense que les clients vont juste réaliser à quel point ça prend quelqu'un de grand et courageux de faire ça, tu comprends? Fait que moi, je souligne ton courage.
Parce que j'ai été souvent déçu, mais j'ai mis le doigt. Tu sais, tu parlais d'estime et d'amour de soi, qu'on doit travailler, la valeur qu'on se donne. Une des plus grandes découvertes que j'ai faites à travers ma pratique, c'est l'impact de la culpabilité. Et j'ai réalisé que plus on travaille la culpabilité, plus l'amour et l'estime de soi augmentent. Et que quand les clients viennent me voir, finalement, c'est que quand ils ont des résultats, ils s'auto-sabotent et ils abandonnent. Parce que la culpabilité est tellement grande en dedans d'eux qu'ils se disent inconsciemment, je ne vaux pas la peine. Je ne mérite pas d'arriver là. Je ne mérite pas de... ou je mérite d'être malade ou je mérite d'être pas bien. Et c'est à force de traverser plus loin avec certaines clientes, j'ai fait « Hey, c'est vraiment fréquent ». Cette culpabilité fondamentale-là en dedans d'elles qui font qu'elles se sabotent. Elles sabotent leur thérapie, elles sabotent leur relation, elles sabotent soit leur business ou leur travail et tout ça, juste parce qu'elles portent ça à l'intérieur. Donc là, je me suis mis à avoir de la compassion. Au lieu de juger, je me suis mis à dire « Ah, tabarouette, OK ». Il y a ça, il y a ce problème-là, prends-le autrement. Donc, mes croyances sont en train de changer là présentement par rapport à ça. Fait que je vais te dire merci de m'avoir réveillé par rapport à ça, parce qu'on a beau chercher, dire, on ne peut pas tout trouver.
T'es incroyablement touchant, pour vrai. Là, merci de me dire ça. Moi, je suis en train de rougir. Ah. Peut-être qu'il y en a qui ne le voient pas, là, mais moi, je sens que je suis en train de rougir.
Parce qu'en fait... Tu sais, comment ça marche, ça? On le projette sur eux autres, ces croyances-là? Comment? J'imagine que, je veux dire, on est tous reliés.
Mais c'est ce que je dis, hein? Notre audience, elle capte les vibrations. Moi, je dis tout le temps, on attire les gens, ben, c'est pas juste moi qui le dis, tout le monde le dit, là, tu sais, on attire les gens qui vibrent sur les mêmes fréquences vibratoires que nous, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais c'est cette zone-là. Fait que si nous, on arrive à élever nos fréquences vibratoires, on va attirer des personnes qui vibrent sur de plus hautes fréquences vibratoires. Mais sinon, on reste pris avec les basses énergies, là. Puis si nous, dans notre entourage, on a des personnes qui prennent de nos énergies, là, puis quand nous, on perd beaucoup de temps à expliquer aux autres personnes qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre, bien, tout ça, ça nous baisse, tu comprends? Fait que élevons notre fréquence vibratoire et attirons les gens qui vibrent sur notre fréquence vibratoire. Puis c'est pas un travail de voici étape 1, étape 2, étape 3. C'est vraiment un travail intérieur qui se fait de soi à soi. T'sais, j'aimerais ça te dire, voici la recette. Je l'ai pas, la recette. Mais je sais que moi, j'ai dû changer mes fréquences vibratoires pour attirer une nouvelle clientèle. Puis aujourd'hui, t'sais, je comprends que la clientèle qui est avec moi, c'est du haut calibre, mais parce que j'ai vibré plus haut.
Je suis intéressé de voir tout ce que tu as pu faire pour augmenter ces vibrations-là. Parce que oui, on a les croyances...
Mais tu sais, c'est beaucoup prendre soin de soi. Puis tu sais, prendre soin de soi, ça inclut l'intérieur, mais ça inclut aussi l'extérieur. Tu sais, c'est puis aussi notre entourage, notre environnement, puis de qui je peux m'entourer. Tu sais, qui je regarde, de qui je peux aller m'entourer, avec qui j'ai envie d'être, tu sais. Comme je dis tout le temps, les personnes qui nous aiment, les personnes avec qui on passe beaucoup de temps, sont en train de nous donner leurs opinions, sont en train de teinter notre vie. Mais si nous, on veut être avec des gens qui réussissent, si on peut arriver à passer ne serait-ce qu'une heure avec une personne qui réussit, est-ce que ça peut changer la donne de la personne que t'es devenue d'ici un an? D'ici un an, si tu passes juste une heure par semaine avec une personne qui a réussi, est-ce que dans un an, t'es une personne différente? Si toi, à travers ton podcast, t'es en train de faire ça, avec chaque personne que tu reçois, t'es en train de recevoir un enseignement dans un an, Pascal, tu seras pas la même personne que t'es que
ça fait partie justement de mon plan, comme je te dis, depuis décembre, je travaille ça, de dire, OK, là, je me rends compte que je stagne à quelque part, c'est pas moi, je veux aider plus de monde, tu sais, parce que j'ai mis sur place, on parle souvent du fameux « why », le « pourquoi tu fais ça », tu sais, oui, je veux bien gagner ma vie, puis je le dis honnêtement, mais fondamentalement, tout ça, je gagnais mieux ma vie que mon ancien travail, tu sais, c'est pas ça. Je veux bien gagner ma vie, mais je veux aider des gens à transformer leur vie. Et...
C'est ça. Il a gagné sa vie pour se nourrir, puis il a gagné sa vie quand c'est nourrissant. Et c'est là la différence.
Pour faire du sens. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast qui va sortir lundi prochain par rapport à ça, parce que les gens me demandaient pourquoi les femmes, au départ, je le savais pas. Ça s'est dessiné comme ça. Moi, quand je suis arrivé il y a 6 ans, c'est comme, ben, j'étais un homme, je vais aider des hommes ou je vais aider tout le monde. Et tranquillement, ça s'est en allé beaucoup vers les femmes, à 95%. Et des fois, ça dérange. Je reçois des critiques, autant des hommes que des femmes. Des hommes qui me disent, ben là, quand est-ce que tu vas nous parler à nous autres? T'sais? Puis des femmes qui disent, t'es qui pour t'adresser aux femmes comme ça? Puis ça m'a amené des réflexions et j'ai fait un podcast sur le sujet. Et c'est toute mon histoire de vie à partir de mon enfance, comment j'ai été élevé par des femmes. Comment mon père est arrivé, j'avais 11 ans, donc j'avais pas de père. Donc, mes figures, c'était vraiment la femme. Et comment ma mère était dans une situation d'oppression avec un pervers narcissique, comment il y avait beaucoup de violence chez nous, qui, oui, a stimulé le sauveur en moi de dire, moi, je vais aider ma mère. Donc, à quelque part, quand j'aide les femmes, qu'est-ce que tu veux, c'est là en dedans de moi, inconsciemment, je cherche à aider ma mère. Mais je n'ai pas cherché à enlever ça. J'ai fait attention à dire je dois pas être un sauveur, mais cette motivation-là qui est là, je la garde. Donc, tu sais, notre why, il vient de lui-même, puis les choses se placent. Et plus je le place, plus mon idée est claire, plus la clientèle augmente aussi. Donc, c'est une bonne façon. Puis j'avais une petite question, même plus personnelle, d'une autre observation que j'avais faite des gens qui réussissent. Est-ce que ta famille était des entrepreneurs?
Mon papa était entrepreneur. Mais juste pour te donner une idée, là, tu sais, nous, on est 4 filles chez moi, je suis la plus vieille. Puis jamais on a pensé ouvrir un commerce ou être entrepreneur, tu sais. Mais moi, là, quand j'ai commencé le Salon de l'éveil, c'était en 2015. Et j'ai gardé ma job en comptabilité jusqu'en 2017. Juste pour te donner une idée à quel point moi, j'étais dans l'ancrage de je suis un employé, tu comprends? Fait que l'idée de partir mon entreprise, c'est venu vraiment tard. Okay. C'est venu vraiment tard.
Mais est-ce que ça se peut que derrière ça, l'éducation que tu as eue, les croyances, les métaprogrammes aient aidé? Parce que c'est une autre, tu sais, quand je te disais tantôt, ceux qui sont en couple réussissent. À un moment donné, je me suis dit, les gens qui se lancent en tant que coach, thérapeute et tout ça, et qui réagissent et qui réussissent immédiatement, là, dans les mois qui suivent, là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et je me suis mis à les observer. Et ce qu'ils ont en commun, c'est que dans leur famille, il y a des entrepreneurs.
Mais tu sais, je peux te dire que ça serait un lien facile, tu sais. Mon père, il était entrepreneur, fait que peut-être que moi, quelque part, dans mon subconscient, je regardais l'idée d'être entrepreneur. Mais tu sais, je vais aussi dire que
j'allais le dire.
puis que nous, dans notre mentalité, si tu fais de l'argent, t'es dans la mafia. Fait que tu sais, autant que tu peux me dire cette croyance-là que mon père était entrepreneur, t'as ouvert un commerce ou t'allais être entrepreneur, Puis j'ai pas rentré dans la mafia parce qu'on m'a dit que j'étais italienne puis que si je voulais de l'argent, il fallait que je sois mafieuse. Tu sais, dans le fond, les valeurs que mes parents allaient m'enseigner allaient être bien loin de celles des mafiosi. Tu comprends? Fait que c'est juste pour te donner, des fois, c'est vraiment les choix que nous, on fait. Peut-être que ça aide d'avoir un entrepreneur en famille. Mais après, c'est qu'est-ce que nous, on croit. Tu sais, moi, je l'ai pas cru que je pouvais être entrepreneur jusqu'à... C'est pour ça, l'urgence de vivre, jusqu'à 2017, là. On est 2024, là. Ça fait pas des années, là. Ça fait même pas 10 ans, là.
OK. Parce que même les Italiens, moi, j'avais dans ma croyance que les Italiens sont pas nécessairement des mafieux, mais sont des entrepreneurs. Tu sais, ils sont arrivés ici, puis ils ont ouvert des business plus que les Québécois. Un peu comme les Anglais vont être plus entrepreneurs que les Franco-Québécois.
Ouais, je pense que t'as raison aussi dans le sens qu'ils avaient pas le choix. Tu comprends comment on fait pour gagner notre vie. Mon père, il avait 100 $ quand il est venu ici. Il a laissé sa famille, il a laissé tout le monde. Il avait 100 $ dans ses poches. Puis du jour au lendemain, tu sais, rebâtir une vie dans un pays étranger. Moi, ça, là, je trouve ça tellement courageux, tellement admirable. Tu sais, moi, je le ferais pas, là. Moi, s'il faudrait que je laisse tout puis que j'aille m'installer ailleurs puis partir ma vie de zéro sans parler français, sans parler anglais. Mes parents, ils parlaient pas français, ils parlaient pas anglais. Ils parlaient que l'italien. C'est moi qui ai appris le français à mes parents quand j'ai commencé à aller à l'école. Fait que ça donne une idée. Eux autres, ils n'ont pas eu le choix de s'immerser dans la culture. Fait que oui, probablement que les Italiens, quand ils sont arrivés ici, ils ont dû partir des commerces parce que probablement c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. T'sais, ils avaient des limitations avec la langue, ils avaient des barrières avec les enseignements. Tu sais, il y a beaucoup de gens de l'âge de mes parents. Ben là, je sais pas si je dois généraliser, mais il y en avait qui n'avaient pas complété leurs études non plus, tu sais. Fait que je veux pas aller là parce que je sais pas. Je connais la réalité de ma famille. Je connais pas la réalité de toutes les familles italiennes. Mais tu sais, les immigrants, je sais pas, il y en a combien qui sont diplômés universitaires quand ils sont arrivés ici, là. Tu sais, c'est vraiment ça.
J'aimerais que tu me parles d'une autre chose que j'ai perçue un peu comme un paradoxe, mais j'imagine que, tu sais, c'est que dans ton livre, tu dis aussi, pour réussir, il faut arrêter de se contenter. Mais en même temps, être dans la gratitude, puis l'inverse de, tu sais, de ce qu'on parlait tantôt, tu sais, c'est de pas s'attacher aux résultats. J'ai dit, OK, mais si je me contente pas de ce que j'ai, je suis en train de vouloir quelque chose d'autre, donc je vibre le manque. T'sais. Là, je trouvais, j'ai dit, il doit y avoir des petites précisions à faire par rapport à ça.
Mais tu sais, ça, c'est le paradoxe du bonheur. T'sais. Quand on décide qu'on veut avoir quelque chose, puis que finalement on l'obtient, mais là, on devrait être le bonheur, on l'a atteint. Mais c'est drôle que le bonheur, on l'atteint jamais. Tu sais, c'est le paradoxe de la vie, là. Tu sais, c'est comme la minute qu'on obtient ce qu'on a tant désiré, ben, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Fait que, tu sais, moi, dans mon dire de il faut pas se contenter, c'est parce que je trouvais que moi, quand j'ai stagné, je me suis contentée. Tu sais, je suis restée dans mon quotidien, dans mon day-to-day, puis j'ai essayé de me convaincre que je pouvais être heureuse là-dedans. Parce que j'avais tout ce que la société m'a dit que j'avais besoin d'avoir. Mais, la minute que tu mets un point à atteindre, quand tu as un objectif vers lequel tu peux avancer, là, tu n'es plus contenté. Là, il faut que tu avances vers la réalisation de cet objectif-là. Puis là, ça fait aussi que tu te mets en action, que tu te sors de ta zone de confort et que tu fais que les choses arrivent. T'sais. Je dis pas qu'il arrive juste des bonnes choses. C'est pas simple. Mais en même temps, c'est la raison pour laquelle on est venu ici. C'est pour vivre, expérimenter et évoluer. Et tout change, tu sais, comme dit si bien François Lemay, là, pour pas le nommer, tout change. Fait que même si nous, on résiste au changement...
Tout change pareil.
Tout change.
Effectivement. Fait que, tu sais, ça fait plusieurs fois que tu parles de sortir de sa zone de confort, puis avec ce que je vois, ce que je lis, j'aurais tendance à dire, s'il y a une pierre angulaire dans ça par rapport au changement, ça serait de passer outre la peur. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur, ne serait-ce même que la peur de réussir, la peur de... Parce que sortir de sa zone de confort, c'est de la peur.
Oui. Tu sais, là, j'accompagne sur la prise de parole en public et le storytelling. La prise de parole en public, là, c'est la peur, la deuxième peur après la mort. Les gens ont peur de mourir, puis après, la peur qui suit, c'est la peur de parler devant les gens. Fait que juste pour faire une anecdote très drôle, tu sais, les gens qui font l'élogie dans les églises, là, l'éloge de la personne qui est décédée, ben il y en a qui préfèrent être dans le cercueil que d'être sur la scène en train de faire l'éloge de la personne qui est décédée. Fait que ça donne l'image de la peur, elle est puissante, mais passer par-dessus la peur, c'est pas parce qu'on arrête d'avoir peur. Moi, j'ai pas arrêté d'avoir peur. La seule chose que j'ai fait, c'est j'ai augmenté mon courage. Mon message était plus puissant. Qu'est-ce que je suis venue faire? Est-ce que c'est important que moi, je reste dans la peur puis que je partage pas mon message, ou est-ce que j'augmente mon courage? La peur, elle s'en va pas. La peur, elle reste. Même les personnes qui ont réussi, même les superstars, ils ont encore peur de se tromper. Ils ont encore peur de tomber. Mais ils passent par-dessus la peur parce que ce qu'elles sont venues faire, ces personnes-là, c'est plus puissant, c'est plus important. Moi, j'ai enlevé le focus de sur moi et j'ai mis le focus sur c'est quoi mon intention. Quand je pense au message que je vais livrer, c'est pas grave si je me suis trompée sur la scène puis que j'ai pas dit cette phrase-là de cette manière-là. Les gens, ils sont repartis avec, j'ai voulu qu'ils soient inspirés, j'ai voulu qu'ils repartent avec espoir, j'ai voulu qu'ils repartent avec une nouvelle façon de penser. Et est-ce que ça, j'ai réussi? C'est ça que je te dis. La peur, elle s'enlève jamais. Ou elle diminue un peu, mais elle s'enlève jamais. Mais c'est juste d'augmenter ton courage puis d'aller vers qu'est-ce que tu es venu
faire. Agir malgré la peur. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans mes podcasts quand moi, j'ai laissé le RTC. Je veux dire, j'avais toute la pression extérieure. Mon père n'a pas dormi pendant 3 semaines. Puis il me disait des affaires du genre, tu trouveras jamais mieux, lâche pas ça. Et là, l'enfant intérieur disait, oh, mon Dieu, mon père croit pas en moi. Mais en fait, mon père était juste insécure au bout financièrement. Fait que pour lui, avoir une job syndiquée, tout le kit, c'était comme le best que tu pouvais pas avoir de ta vie dans ses croyances. Puis je me souviens, une des choses qui m'a aidé à passer outre la peur, même si je la ressens, c'est de marcher sur le feu avec Jean-Pierre Beaudoin. Et ce feeling-là, je l'ai toujours gardé en moi. Puis je me suis dit, ressens ce que ça fait après. Et à chaque fois que tu as peur, réjouis-toi parce qu'après ça, il y a une victoire. Et si je peux donner un conseil aux auditeurs, trouvez ce lien-là. Faites ce qu'il faut pour avoir ce lien-là dans votre tête, que quand vous avez peur, c'est un cadeau qui s'en vient de l'autre côté. Et de ne pas figer puis de rester pris dans ça. J'aimerais ça que tu nous parles, parce que là, tu nous as parlé de la prise de parole en public, que tu nous parles un peu justement de ce que tu offres, de ce que tu fais, parce que tu nous as parlé aussi du coaching spirituel et prospère.
Maintenant, c'est le coaching. Maintenant, c'est vraiment le coaching sur la prise de parole en public et le storytelling. J'accompagne les gens. Tu sais, quand j'ai créé le Salon de l'éveil, moi, j'avais 27 amis Facebook.
Oh boy, OK.
Puis, j'avais 27 amis Facebook, puis là-dedans, il y en avait qui étaient de ma famille, tu sais, que j'avais jamais parlé, puis qui habitaient en Italie. Ça donne une idée de où je partais. Là, je partais vraiment zéro, mais moi, je partais avec l'idée aussi de « je veux partager mon message ». Fait que quand je crée le Salon de l'éveil, j'ai 80 places conférences à distribuer dès la première année. Et mon but, c'était aussi de monter sur la scène puis de parler de ce que j'avais vécu puis ce que j'avais envie de partager. Et j'ai distribué toutes les places parce que j'avais le syndrome de l'imposteur solide. Fait que je me rappelle de m'avoir gardé une place puis de me rappeler de la donner à la personne puis de dire, regarde, ton message est plus important que la mienne. Fait que quand tu dis, t'as pas confiance en toi, t'as peur, bref, tu comprends que le syndrome de l'imposteur était assez solide. J'ai donné tous mes espaces conférences, mais je permettais à des gens qui n'avaient jamais monté sur la scène de venir livrer leur message. Tu sais, j'ai dit, je veux être la personne qui croit en toi. Combien de personnes ont donné leur première conférence au Salon de l'éveil? Je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent faire cette liste-là. Tu sais. Puis on se rappelle toujours de nos premières fois. Fait que je pense que je suis dans les souvenirs de bien des gens. Tu sais. Puis cette année, c'est drôle parce que je recevais même des vision boards avec « je serai conférencière au Salon de l'éveil » ou « je serai conférencière au Salon de l'éveil », des gens qui avaient fait des vision boards 2024 avec l'image du Salon de l'éveil. Mais bref, tout ça pour venir que en 2015, je me suis pas donné un espace conférence. En 2016, je me suis pas donné un espace conférence. Puis là, j'étais rendue dans 2 puis 3 villes. Fait que j'avais 120 puis 130 espaces conférences à livrer, puis je m'en gardais pas plus. Puis c'est en 2017 que j'ai monté sur la scène pour la première fois. Fait que c'est juste pour te donner une idée aussi que la voisine qui a eu un accident de voiture, elle aussi, elle a des choses à raconter. Le professeur d'école qui a surmonté un cancer, il a quelque chose à raconter. Moi, je suis la personne qui permet aux gens de monter sur la scène. Puis avec la prise de parole en public et le storytelling, des fois, j'entends des gens me dire « Ouais, mais moi, j'ai pas d'histoire à raconter. » Et c'est, il y a rien de plus faux. On a tous des histoires à raconter. Faut juste savoir les tweaker, les arranger pour que ça puisse être inspirant. Comment les gens peuvent aller chercher ce que nous, on a vécu et se propulser, eux, avec ce que nous, on raconte. Et l'autre chose que j'entends, c'est mon histoire, il n'y a personne qui veut l'écouter. Et il n'y a rien de plus faux. Parce que les gens, les humains, là, on veut vibrer, on veut voir des personnes qui ont vécu la même chose que nous. Puis, tu sais, dans, je reviens dans la lourdeur de ce que moi j'ai vécu. Moi, j'avais l'impression que j'étais la seule au monde à vivre ça. Et quand je me suis mis à en parler, puis quand j'ai créé le Salon de l'éveil, je me suis rendu compte que c'est pas une dizaine de personnes qui vivent ça, c'est des milliers de personnes qui vivaient ça, tu sais. Fait que quand on reste dans notre solitude, dans notre noirceur, à broyer du noir puis à dire « je suis toute seule au monde », si je m'en vais écouter une conférence de quelqu'un qui a vécu quelque chose qui ressemble à ce que moi j'ai vécu, est-ce que ça se peut que cette personne-là, elle a des outils, des trucs pour que moi je m'en sorte plus facilement puis avec plus de facilité? Fait que moi, mon but, là, c'était, avec le Salon de l'éveil, c'était de propager mon message, mais d'aider les gens à propager leur message. Puis aujourd'hui, avec le coaching que j'offre, avec le Standing Ovation, ça s'appelle Standing Ovation, la formation, prise de parole en public et storytelling, venez raconter vos histoires. Vous savez jamais jusqu'à quel point vos gestes vont résonner dans l'univers. Ça, c'est ma phrase fétiche. Je la dis partout dans mes livres, dans mon site web. Chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Tu sais, même toi, Pascal, avec ton podcast, tu sais pas. La personne qui entend ton commentaire, qui entend comment toi t'as changé ta vie, comment lui maintenant transforme sa vie. Tu sais, juste l'épisode que t'as raconté avec ton papa, combien de personnes ont vécu un épisode qui ressemble à ça et qu'aujourd'hui ils se disent, ben, tu sais, regarde ma vie où elle est. Grâce à.
Effectivement, puis j'ai des gens qui m'écrivent, heureusement, puis qui me disent, hey, t'as dit ça, tu m'as fait pleurer, ta. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir qu'on change les vies. Puis, justement, le Salon de l'éveil à Québec, voyons, c'est 5.
C'est le 4 et 5 mai. 4 et 5 mai, je suis quand les gens vont entendre. 4 et 5 mai.
Oui, bien, juste la semaine avant. Qui sort avec, donc, que le podcast va sortir. Venez faire un tour à Québec. Écoutez, c'est.
On est au Centre des congrès de Québec avec le Salon de l'éveil, puis après au mois d'août, on va être à Laval. 24-25
Et vous avez possiblement la chance de me voir en conférence, parce que moi, j'ai là, en date où on est aujourd'hui, les sélections n'ont pas été faites, mais moi, je garde bon espoir. J'avais la foi, celui de Boucherville. Je me souviens, Claudine, elle me dit, Pascal, c'est la première fois que tu donnes ton nom, là, énerve-toi pas trop, tu sais, il y a des gens qui attendent des années avant de réussir, tout ça. J'ai dit, non, Claudine, moi, je vais la donner. Et j'ai été choisi.
Yeah.
Et oui, j'avais le track. J'avais déjà donné une petite mini-conférence dans une bibliothèque à quelque part devant 5-6 personnes, mais tu sais, là, je savais pas, c'était comme vraiment ma première conférence. Et là, j'avais peur, je me disais, va-tu avoir du monde? J'ai pas envie qu'il d'arriver, puis c'est vide, je vais me sentir mal s'il y a juste 2-3 personnes. Et finalement, je rentre. C'est une salle qui contenait 60 places assises, je pense. J'avais déjà à peu près 50 personnes d'assis qui attendaient. La salle s'est remplie, j'avais du monde debout en arrière. Là, j'ai fait « wow, ok ». Mais en même temps, le stress montait. Mais ça a super bien été, j'ai fait rire les gens. J'ai une femme qui est venue me voir à la fin, elle pleurait. Là, j'ai dit, OK, si j'ai eu des émotions, c'est parce que le message a passé. C'est comme quand on fait de l'hypnose ou du coaching. S'il y a de l'émotion, c'est parce qu'on a, on a touché quelque chose.
En tout cas, s'il y a eu de l'émotion, t'es sûr que les gens vont se rappeler. Tu sais, des conférences inspirantes, on en a toutes entendues. Mais si tu as fait vivre des émotions, c'est comme
ça que
les gens
se souhaite vraiment de passer encore la sélection. Fait que je vous invite à venir voir ça. Vous allez pouvoir voir sur les sites Internet. De toute façon, je vais mettre tout dans la description de l'épisode, site Internet du salon.
www.salondelevin.com. S'il y en a qui veulent être exposants, s'il y en a qui veulent tenter leur chance de conférencier, conférencière, peut-être c'est encore
Puis temps. Des fois, on pense que, oh non, nous autres, on est trop petits ou. Non, tu sais, comme moi, là, je partage une table. Il y a moyen de diminuer les frais. Il y a toutes sortes de monde intéressants. Moi, ma plus grande déception, à quelque part, mais en même temps, j'étais heureux, c'est qu'il fallait que je reste à ma table. Pour parler aux gens, parce qu'il y a du monde, là. Ça arrête pas. Le samedi, là, je pense qu'il était rendu 10h30, 11h, je commençais déjà à perdre la voix. Tellement il y avait du monde, puis je parlais, là, j'ai dit, hey, là, attends un peu, là, faut que je fasse attention. Moi, j'ai une conférence à 4h, là. Faut que j'aille encore de la voix, là. Mais là, j'aurais donc voulu, il y avait tellement de conférenciers intéressants que j'aurais voulu aller m'asseoir puis écouter. Mais là, je me disais, si je suis même allé voir toutes les conférences, je serais pas à ma table. Donc, tu sais,
T'imagines moi qui crée l'événement, je voudrais être dans chacune des salles. Tu sais, je voudrais être dans chacune des salles à écouter tous les conférenciers, puis je voudrais aussi aller voir, avoir le temps d'aller voir chacun de mes exposants. Mais comme tu dis, il y a tellement de gens, il y a
c'est
tellement
ça. Puis pour de gens. Pour le prix, tu sais, j'imagine c'est le même prix que Boucherville.
C'est 20
dollars. Tu sais, 20 dollars là, je me disais, mais voyons, c'est ridicule.
Pour accès à toutes les conférences et à c'est tous ça, les exposants. C'est des experts qualifiés. Je le sais, mais
c'est ridicule. C'est un prix ridicule pour tout ce qui est offert là. J'ai rencontré des gens qui étaient mêlés, qui avaient une feuille de papier, et là, ils essayaient de timer les heures, dire « OK, lui, je vais le voir. Ah, mais maudit, j'aurais voulu voir lui. » Puis là, il y avait une liste remplie. Tu sais, les gens profitent de l'expérience, et là, puis il y a des rencontres à faire extraordinaires. Fait que, tu sais, si t'es entrepreneur, là, que tu m'écoutes, ben, si t'es pas entrepreneur, viens juste te nourrir de tout ce qu'il y a là. Mais si t'es entrepreneur, considère ça parce qu'il y a des retombées qui viennent avec ça. Je veux dire, moi, j'ai vu ma liste de courriels augmenter, mes épisodes de podcast augmenter, tu sais, etc. C'est une super façon de connecter avec les gens autres que juste les réseaux sociaux. Je comprends que depuis la pandémie, les réseaux sociaux ont pris beaucoup de la place. Mais ça fait du bien de retourner sur le plancher des vaches.
La connexion humaine, la connexion humaine, là, d'être sur place, de faire un câlin à quelqu'un.
Ah oui, vraiment, là, c'est une expérience. Puis moi, je vais probablement être à Laval aussi. Là, j'y vais un à la fois, mais tu sais, j'ai adoré l'expérience. Donc, venez faire un tour, venez nous voir, venez valider si j'ai une conférence. Vous allez le voir sur le site, là, mais... ça vaut la peine. Je suis fier de la conférence que j'ai montée et je suis fier de l'impact qu'elle a sur les gens. Vraiment, c'est quelque chose d'intéressant, mais de toute façon, quand les liens du site internet, tout ça, même de Cathy, si des fois vous dites, moi j'aimerais ça, prendre la parole. Puis comme elle disait, les gens veulent entendre notre histoire. Vous y croyez pas? Alors regardez comment les réseaux sociaux sont populaires et comment les téléréalités sont populaires. Les gens, ces réseaux sociaux ou des téléréalités, honnêtement, ils ont-tu quelque chose de plus que vous autres à dire? Pas nécessairement. Et pourtant, c'est des millions de vues, c'est des millions d'écoutes. Donc, les gens aiment s'intéresser à l'histoire des autres, peut-être parce qu'on est voyeurs un petit peu. Mais s'il y a de l'information pertinente qui nous aide à grandir, ben c'est un plus. Parce que moi, je m'accroche beaucoup à quelque chose que quelqu'un m'a dit un jour. Il dit, il y a des archétypes dans la vie en fonction des périodes. Tu sais, les airs, comme là, on est dans l'ère du Verseau. Il y a des archétypes spirituels, des grands guides qui viennent sur la Terre. Et il disait, l'archétype du Verseau, c'est qu'il n'y a pas d'archétype. C'est que c'est chacun de nous qui vient raconter sa petite histoire, qui vient mettre son petit grain de sel, qui va représenter l'espèce de message global que d'habitude on reçoit d'un Bouddha, d'un Jésus, de peu importe. Et j'ai trouvé ça intéressant, cette théorie-là, puis c'est ce que je remarque présentement, de voir comment les gens commencent de plus en plus à parler de leur évolution, donner des trucs, parler de leur propre histoire, comment ils ont surmonté des épreuves difficiles. Et je pense que comme ça, ben, on peut grandir en tant que société puis s'améliorer.
Tellement.
Yes, paroles sages. Cathy, le temps passe, ça fait déjà une heure. Je te remercie énormément de ton passage. Je ne sais pas si tu veux dire un petit dernier mot de la fin en terminant.
Ce fut un réel plaisir, un réel privilège d'avoir cette discussion tout en profondeur avec toi. Puis pour vrai, là, c'est vraiment touchant. C'est vraiment aussi très, très inspirant, les enseignements. Tu sais, à travers ton podcast, je pense que tu nourris bien ta communauté. Ben,
le résultat est quand même là. Comme je te disais, j'approche les 13 000 écoutes. C'est sûr que si tu compares à Charles Côté qui est dans les centaines de milliers d'écoutes et peut-être plus, c'est différent parce que...
Faut pas se comparer.
Moi, je me compare dans l'inspiration. Si je me compare négativement puis que ça me diminue, je le fais pas. Mais si je me dis, waouh, si Charles a pu y arriver, ben, moi, je vais trouver les moyens de grossir mon audience quand même. Mais je suis quand même très fier qu'en à peu près 80 quelques épisodes, j'ai atteint 13 000. On peut pas dire personne parce qu'il y a des gens qui écoutent toutes, là. Moi, je le vois dans les trois premières heures où sort mon podcast le lundi matin, j'ai pas loin de 30 écoutes. Donc, je sais que c'est toujours les 30 mêmes qui attendent avec impatience, qui sortent à 6 heures du matin puis qui l'écoutent. Mais j'ai réussi en 80 quelques épisodes à quand même me rendre à 13 000, ce qui est nettement plus efficace que n'importe quel réseau social présentement.
C'est
Et c'est des gens qui écoutent jusqu'au bout. Donc, la connexion est là. Au salon de l'éveil, j'ai ri. Il y a des gens qui arrivaient. « Hey, salut, comment ça va? » Ils me serraient la main. Puis là, j'avais les yeux, je les regardais comme « T'es qui? » Mais eux autres, ils avaient donc l'impression de me connaître là, comme il faut, mais c'est parce qu'ils écoutent mes podcasts. Fait que tu sais, j'ai fait « Ah, c'est spécial comme expérience, tu sais. »
On ne pourra plus aller à l'épicerie maintenant, ça. Regarde, on va te reconnaître.
Ah ben là, il n'est pas encore dans le visuel, mais quand je vais me filmer, puis vraiment, je vais développer un petit peu plus YouTube, ben, peut-être que ça va arriver, tu sais, puis tant mieux, puis c'est voilà. Parfait. Bon, fait que je te remercie beaucoup encore une fois, Cathy. Nous, on se voit au Salon de l'éveil, tu m'as dit les 4 et 5 mai prochain, 2024, parce que là, si tu écoutes ça un an plus tard, le podcast, ben écoute,
Il va en avoir c'est en 2025, ça. Fait qu'allez voir quand même Salon de l'éveil
2025. C'est ça, 25. Allez voir le site, et puis c'est ça, j'ai hâte de te voir et de te reparler en personne. Bye!
Merci encore, ce fut un rêve, privilège, bonne journée, bye bye!
J'espère que cette entrevue t'a fait réfléchir. On voit encore une fois à quel point c'est pas ce qu'on veut consciemment qui compte, mais tout ce qui est inconscient, comme les pensées répétitives, les croyances et les émotions, comme la culpabilité. Je le dis souvent, la vraie spiritualité, c'est de rendre les choses conscientes et de se défaire, je dirais, de toutes les mémoires qui nous limitent. C'est un travail de constance qui demande patience et persévérance. C'est exactement là ma mission. Un, le faire moi-même, bien sûr, et te guider à travers ton propre cheminement. Pour ce faire, j'ai différents outils pour toi. Tu peux aller sur mon site internet pascalbrousseau.com, que ce soit des petites formations en ligne, que ce soit des ateliers Zoom, des ateliers en personne, ou des rencontres individuelles, encore là, qui se font soit en Zoom, soit en personne. Toutes sortes d'approches différentes qui ont fonctionné pour moi au point de m'amener à résoudre 30 années de douleurs chroniques. Ça, pour moi, c'est du réel changement. Ça change, oui, au niveau du corps, mais ça change toutes sortes de choses au niveau de l'extérieur et au niveau émotionnel. Donc, je t'invite à aller en description de l'épisode. Tu as tous mes liens, dont celui pour mon site, pour aller voir, en fait, tout ce que j'ai à t'offrir. Sur ça, je te remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.